Salut, c'est Champ Libre. Champ Libre numéro 648, que je ne dise pas de bêtises. Un Champ Libre de troisième mercredi du mois. Et comme disait l'autre, troisième mercredi du mois, et moi, cinéma, avec Joe.
C'est moi, bonsoir.
Qui a pu se libérer ce soir.
Oui.
C'est bien. Avec Damien, qui nous parlera de musique métallique.
De musique métallique et d'histoire, une fois n'est pas coutume.
Et d'histoire, c'est bien. Et puis Laurent, bien sûr, derrière les manettes. Et moi, je commence ce Champ Libre tout de suite avec un album, une nouveauté d'il y a quelques jours quand même, le nouvel album du groupe Temples. Alors, il y a quelques années, en 2014, Temples a proposé un premier album qui s'appelait Sun Structures. Et cet album avait été accueilli façon dithyrambique par la presse rock anglaise, qui voyait dans Temples le renouveau du rock psychédélique. Depuis, on les a beaucoup comparés aux Australiens de Tame Impala.
Oui.
Et les mauvaises langues disent que c'est un sous-Tame Impala. Bon, je n'entrerai pas dans la polémique. Toujours est-il que le deuxième album de Temples vient d'arriver. Il s'appelle Volcano. Alors, toujours des mélodies psychédéliques, mais cette fois-ci, beaucoup moins de guitare et beaucoup plus de synthé. On écoute un titre de ce Temples, pour que vous fassiez une idée. Ça s'appelle In My Pocket, ce qui signifie...
Dans la poche.
Dans la sienne, en tout cas.
Oui, voilà.
I like to put you in my pocket. Put you in my pocket each day and watch the clouds. I was dropped onto my head once as a child.
Empty.
Temples. Excusez-moi, j'étais en train de déplacer mon micro. Je changeais de prise. Évidemment, ça tombe
pile poil.
Pile poil pendant la reprise musicale.
Très bon album, hein, Volcano. Très bonne confirmation.
Oui, les avis sont très partagés. Mmh. On peut se permettre aujourd'hui de... Moi aussi, hein, je te rejoins. On peut se permettre aujourd'hui de dire que c'est un album sympa qui s'écoute. Mmh. Mais je connais des animatrices de cette émission qui sont beaucoup plus réservées que moi.
Tant pis pour elle.
Voilà. Joe, avant de s'attirer des ennuis, on va parler de choses sérieuses.
Ouais, exactement. De cinéma, pour commencer. Petit retour en arrière quand même. Parce que moi, je voudrais parler d'un film qui date de 96, réalisé par un jeune cinéaste anglais qui mettait en scène un véritable phénomène cinématographique à ce moment-là, pop, trash, sacrément jubilatoire, avec ses losers fabuleux dingos, accro à l'héroïne, et sa bande originale passée à la postérité avec Iggy Pop, Lou Reed, Damon Albarn, Wonderworld. Trainspotting était alors un petit bijou d'une nouvelle génération d'acteurs et de réalisateurs anglais dont l'extraordinaire virtuosité éclaboussait tous les écrans de nos salles obscures. 20 ans après, Danny Boyle, tombé depuis de son piédestal de petit prodige, hein, merci Snowdog Millionnaire, merci La Plage, remet donc la seringue en marche et fait revenir Renton, Sick Boy, Spud, Begbie pour une suite de leur pérégrination, toujours bien sûr sous fond de sexe, drogue et rock'n'roll, entre coups bas, amitié, déçus et retrouvés. Une question se pose alors, pourquoi faire revivre ces personnages devenus cultes, sinon pour s'assurer un succès commercial tout cuit et relancer ainsi des carrières respectives au point mort. Allions-nous donc retrouver ce rythme ravageur, cette explosion visuelle et musicale? Le culte allait-il perdurer? Verdict, le défi n'est que très partiellement relevé, malheureusement. Alors déjà, d'un point de vue strictement commercial, le film s'est complètement planté, a essuyé un bide retentissant aux États-Unis, en France et un petit peu moins en Angleterre. Mais on ne juge pas un film sur l'impact commercial. Et si le plaisir est réel de revoir ces hurluberlus baignant toujours autant dans les combines minables en pleine cause du Brexit, force est de constater que l'ensemble, à défaut d'être vraiment raté, sent quand même le réchauffer. La bonne idée du film réside toutefois dans sa tonalité nostalgique. Alors effectivement, à travers quelques scènes très belles, très fortes, notamment à travers le personnage de Spud, les personnages, de même que les spectateurs, ressentent l'étau impitoyable de ce temps qui passe, où rien ne change, où les souvenirs s'entassent, perdurent, et les êtres chers, eux, disparaissent. Donc c'est une belle illustration d'une jeunesse qui n'existe plus, laissant place à une existence encore plus incertaine, à un futur davantage improbable. Alors pour le reste, d'un point de vue scénaristique, tout comme la mise en scène de Danny Boyle, exagérément trop tape à l'œil, rien de tout cela ne s'avère vraiment original. Les personnages n'évoluent jamais vraiment et le scénario donne l'impression de tourner en rond. Danny Boyle se voit même obligé de réintégrer des scènes du premier film pour s'appuyer ses clins d'œil, les clins d'œil, ses souvenirs, et fait montre ainsi d'une réalisation pas très finaude comme à son habitude. L'ensemble paraît assez vain et la frustration grandit de retrouver ces personnages que l'on croyait plus revoir et d'attendre un feu d'artifice qui n'arrivera jamais. Alors certes, les acteurs, Ewan McGregor en tête, Robert Carella également, font le job, mais semblent étonnamment fatigués de toutes ces gesticulations. On ressort toutefois du film pas totalement mécontent, mais conscient qu'il ne restera pas vraiment dans nos mémoires. Subissent alors l'impression d'avoir recroisé des photos de longue date, des potes, excusez-moi, de longue date, sans avoir su quoi se dire. Donc très dommage. Un autre point positif, à noter une excellente bande originale avec bien évidemment, clin d'œil au premier, les relectures de Lost for Life d'Iggy Pop, remixées par Prodigy. Un autre remix, celui d'Underworld, Deep Blue Day, le fameux de Brian Eno. Voilà pour les clins d'œil, sinon pour la suite, Queen, Wolf Alice, Young Fathers, Bloody et les Clash font le boulot. Une bande originale de films qui s'ouvre grandement ce long métrage de Danny Boyle, mais quelle déception au vu en plus d'une bande-annonce qui était dithyrambique et qui laissait penser un revival de ces personnages, de cet univers. Mais que de déception dans l'ensemble.
Merci, Joe. Alors, moi, je me suis penché sur la presse et sur les différentes critiques que j'ai pu piocher à droite et à gauche sur le film. Alors, je vais être rapide, on creusera un petit peu s'il le faut. Je cite les sources Télérama, Trainspotting 2, un second chapitre vraiment dispensable, ne tient pas la comparaison avec le premier volet. Donc finalement, absolument, ça rejoint plutôt ce que tu disais.
Absolument.
Les Un Rock, séquelle I2 du film culte de la génération Britpop.
Bon, I2 un petit peu exagéré. Oui.
Je lis les critiques.
Je t'en prie.
Troisième, donc c'est Les Un Rock. Troisième critique, Le Monde. Une suite inepte au film qu'il avait fait accéder à la gloire planétaire en 96.
Tu es classé en ordre croissant du
non, non. Alors, j'ai fait une recherche rapide sur Internet.
Les critiques sont très mauvaises.
Voilà. Alors, ce qui
m'a
intéressé quand même dans la critique du Monde, c'est qu'ils expliquent pourquoi il s'agit d'une suite inepte. En fait, ils nous disent que ce film, qui se voulait une critique ricanante de l'état d'élabrement avancé de la Grande-Bretagne post-Thatcher, voire de l'humanité dans son ensemble, c'est un film qui faisait du nihilisme son beurre et qu'en toute logique, il ne pouvait pas y avoir de suite.
Exactement.
Donc, plat réchauffé, indigeste, destiné à faire tourner la machine à cash.
D'où le côté opportuniste de Danny Boyle refaire une suite.
Et en supprimant les substances chimiques, le réalisateur prive cette suite de la dimension pop que pouvait avoir l'original. Hein, je ne veux pas entrer dans le scénario du film, mais dans le premier film, ils courent après leur dose.
Ouais.
Dans le deuxième, ils courent après l'arnaque.
Après l'arnaque et leur passé, en fait.
J'ai d'autres critiques. Joe, Libération. Alors, contrairement à ce que tu disais, c'est pas par ordre croissant. Mais quand même, le Trainspotting de 96 avait réussi un coup proche de l'exploit, se lever dans la contre-culture juvénile d'une époque, au point de finir par se confondre avec elle. Alors, celui-ci, médiocre dans ses visions et sa réalisation, un peu blaireau, un peu mode. Ça, c'était la chronique du premier par Libération. D'accord. Médiocre, un peu blaireau, un peu mode. Et il l'emportait malgré tout grâce à l'énergie communicative au point qu'une génération s'en emparait à l'époque. Donc lorsque tu disais tout à l'heure on attendait beaucoup de ce truc et tout, parce qu'effectivement c'est le film d'une génération. La bande originale, là,
complètement.
Elle fait plaisir à tout le monde. Ceux qui aimaient les punks, là, les Clash et tout comme ça, tu leur fais plaisir si tu fais une bande originale comme celle-là.
Oui, et puis heureusement que le film est rythmé par cette bande originale. Voilà. Parce que sinon, ce serait une perdition totale.
Libération nous explique que c'est un peu putassier, quoi, cette façon de faire. Et puis, ce qu'il reproche également, on est dans Libération, ce qu'il reproche également à Trainspotting 2, c'est d'évacuer 20 ans de politique ultralibérale, 20 ans de spéculation immobilière, 20 ans de démantèlement de la classe ouvrière, 20 ans de pop musique, 20 ans d'évolution des mœurs, 20 ans de mutation des drogues récréatives et 20 ans d'éloignement entre l'Écosse et l'Angleterre. Le film prend-il acte de l'explosion des réseaux sociaux dans un monologue de bravoure assez pénible.
Alors, si je peux me permettre, c'est là où on voit que Danny Boyle a changé de cinéma et s'est appauvri, parce que Trainspotting, qui dégageait quand même un message un peu plus éloquent et un peu plus profond, je trouve perd littéralement. On fait un cinéma de plus en plus artificiel. Et je pense qu'à travers ce film, Danny Boyle s'est complètement projeté à travers ses personnages et pour les spectateurs, à travers sa propre filmographie. C'est-à-dire que depuis Trainspotting, il a dû faire un ou deux bons films. Le reste, c'est un carnage, il faut le dire. Enfin, c'est quelqu'un qui est resté très tape à l'œil, très tripesque et ce film en fait partie, malheureusement, alors que c'est quand même, ça fait suite à son film culte, le film qu'il n'aurait pas dû rater, en fait, et qu'il rate, malheureusement.
Voilà. Bloqué sur l'esthétique publicitaire frimeuse zen.
Ça, c'est une catastrophe.
Voilà, ça, c'est les Inrock. Agitation visuelle frénétique, masquant.
Faut trouver les plans qui ne durent pas plus.
Je te laisse le mot de la fin, Damien.
D'un quart de seconde.
Et ben moi, contre toutes ces critiques, moi j'ai plutôt bien aimé. Je reconnais que des fois, ça sombre un peu trop dans la nostalgie avec le clin d'œil appuyé. Par exemple, la scène dehors où ils vont mettre des fleurs en mémoire de Tommy, c'est une reprise quasiment plan par plan. Puis des fois, les arrêts sur image quand même sont assez gênants. Mais dans l'ensemble, sur cette idée quand même d'amis qui se revoient après 20 ans, j'ai beaucoup aimé. Je me suis dit que ça pouvait être moins d'avant-temps, finalement.
Mais oui, il y a des scènes très fortes, oui, effectivement.
Oui, Damien.
Je reconnais des défauts au film, mais dans l'ensemble, je trouve qu'il n'est pas si mauvais que ça, sans bien sûr soutenir la comparaison avec le premier. J'ai pas revu le premier avant volontairement, parce que je me suis dit que sinon, je l'avais pas aimé. Indépendamment du premier, si c'est possible, c'est pas un si mauvais film que ça.
D'accord. Bon, en fait, le problème, c'est que c'est... Oui, Danny Boyle... Danny Boyle n'a pas eu une once de nouveauté dans sa mise en scène. C'est-à-dire qu'il avait déjà refait il y a 20 ans et que, on a déjà vu tout ça sans une once d'originalité.
Voilà, alors je vais faire mon masque et la plume. Planter, c'est planter.
Oui.
Voilà, allez voir le premier Trainspotting.
Oui,
et puis,
le revoir.
Et puis plongez-vous dans la discothèque idéale de la fin des années 80 en écoutant, par exemple,
The Clash.
Le Clash.
A White Man in Hammersmith Palais. Tout à fait.
C'est un titre de 79.
Exactement.
Clash. Tu connais, Damien ?
Bien sûr.
Bon. Oui, Clash, très bon groupe rock. Je me demande s'il y en a eu depuis. Non, non, c'est de la preuve qu'il y a, oui. Il y a plein de bons groupes, mais des groupes qui ont produit cette déflagration-là, cet effet-là. Moi, je me souviens de la première fois que je les ai vus, c'était plus qu'une claque dans la gueule, c'était un coup de Rangers dans la gueule. Voilà, Clash. On va passer à l'album d'un musicien, chanteur, écrivain, ex-prof de philo français, nancéen plus exactement, qui était le leader d'un groupe qu'on aimait beaucoup ici dans Champ Libre. Ce groupe s'appelait Catonoma. Et malheureusement, ce groupe, après une dizaine d'albums, a vécu ce que vivent la plupart des groupes de rock en France, à savoir le splittage. Parce que pas de public, pas de distribution, pas de concert, etc., etc. Le leader de ce groupe, M. Rodolphe Burger, n'est pas un inconnu pour le grand public. Il a composé pour Françoise Hardy, Eric Truffaz. Alors là, c'est déjà un petit peu plus pointu. Mais il a également travaillé pour Bachung, en particulier sur l'album Fantaisie militaire. C'est lui qui a composé le titre Samuel Hall, qui est un des titres les plus beaux, à mon avis, de cet album. Alors, pourquoi je vous dis tout ça ? Bah, tout simplement parce que Rodolphe Burger vient de sortir un nouveau disque solo. En plus des albums de Catonoma, il a collaboré avec des tas d'autres musiciens. Mais ça, je crois que c'est le deuxième album solo, le troisième album solo. Cet album s'appelle « Good ». C'est un album qui mélange au niveau des textes la langue anglaise et la langue française. Rodolphe Burger aime beaucoup la littérature américaine, donc il s'inspire ou il cite de grands auteurs américains. Et puis il écrit des textes où il demande à des copains poètes, pour la plupart, d'écrire pour lui. La musique, on va dire, est plutôt sombre. Il joue de la guitare électrique, il a un jeu de guitare très particulier, assez lourd. Je ne sais pas si vous avez écouté l'album de Rodolphe Burger.
Non, non.
Collé samedi.
Oui, je l'ai écouté, oui. Ouais. J'ai beaucoup aimé. Assez sombre, effectivement, mais je trouvais ça très très bien. Ouais.
Alors, une musique envoûtante, avec des climats. Ouais. On dit dans les critiques que Rodolphe Burger fait partie des auteurs difficiles. Alors, difficile, ça veut dire que c'est difficile à écouter, au milieu du top 50.
Ah oui, c'est sûr.
Sur je ne sais plus quelle chaîne. On va s'écouter un titre. Écoutez bien le texte. Rien ni personne. Ouais. Rodolphe Burger, l'album s'appelle « Good ».
Tu ne tueras pas ni tes camarades, ni tes profs, ni tes voisins. Tu ne tueras pas ni à Srebrenica, ni à Tel Aviv, ni à Jenin, ni à Alep, ni à Atlanta. Tu ne tueras pas parce que Dieu t'attend en buvant sous la treille. Tu ne tueras pas ni pour la loi, ni pour l'État. C'est le premier et le dernier, et c'est le seul commandement. Tu ne tueras point, veut dire, tu ne tueras pas, c'est tout. Rien ni personne. Tu ne tueras pas pour le tiroir caisse de la boulangère. Tu ne tueras pas pour l'adrénaline pour le flash. Tu ne tueras pas pour le compte d'un souteneur planqué sous les tropiques. Tu ne tueras pas pour te venger. Tu ne tueras pas ni pour jouir ni pour mourir. C'est le premier et le dernier. Et c'est le seul commandement. Tu ne tueras point, veut dire. Tu ne tueras pas, c'est tout. Rien ni personne.
Libre, le favori.
Le favori de l'émission, c'est depuis la semaine dernière le nouvel album inattendu, ou au contraire attendu depuis trop longtemps, du groupe américain Granddaddy. L'album s'appelle Last Place et on écoute ce soir I Don't Wanna Live Here Anymore. Je vous l'ai raconté la semaine dernière. Jason Lytle avait quitté le lieu où il habitait pour suivre quelqu'un avec qui il vivait. Puis ça s'est mal passé, alors il est revenu. Et ben, du coup, il ne voulait plus jamais revenir vivre ici, mais s'y rater. Granddaddy, l'album s'appelle Last Place, c'est le favori de l'émission. Comme chaque mois, Damien, tu vas essayer de nous cultiver un peu.
Eh oui, chers auditeurs, mauvaise nouvelle, parmi tous les excellents disques sortis au cours du dernier mois, j'ai dû n'en choisir qu'un. Alors en faisant ce choix, j'ai ressorti mes vieux cours d'histoire et mes vieux cours de latin, et je me suis replongé dans l'histoire des guerres puniques. Pour ceux qui étaient au fond de la classe et qui dormaient, les guerres puniques sont des guerres qui ont opposé Rome à Carthage pendant l'Antiquité. Et ces guerres puniques, donc, sont le sujet du concept album The Immortal Wars du groupe canadien Ex Deo. C'est donc un groupe qui s'est fait une spécialité de faire des albums en rapport avec la Rome antique, qui fait tous ses concerts, il faut le savoir, en tenue de soldat romain. Alors on écoute tout de suite un morceau comme, pour se mettre dans l'ambiance.
Comme à CDC. Oh, pardon, non, allez, premier jury, je n'y peux rien.
On écoute tout de suite un morceau pour se mettre dans l'ambiance. Sortez vos sandales de cuir et mettez-vous en formation de la tortue. C'est tout de suite The Rise of Hannibal. The Immortal Wars démarre donc comme tout album de death metal symphonique qui se respecte, en l'occurrence avec The Rise of Hannibal, que l'on vient d'écouter, en vous mettant une grande baffe, avec des riffs chiadés et une voix bien énervée. Au niveau du contenu, la chanson raconte l'arrivée au pouvoir d'Hannibal en -221. Hannibal qui prend la tête du pouvoir à Carthage, qui succède à son oncle Hasdrubal et à son père Hamilcar.
Hannibal Lecter.
Hannibal Barca.
Ah, pardon.
Attention, il y a un terreau à la fin. Et c'est donc Hannibal qui déclenchera en -218, donc 3 ans après, si vous avez suivi, la deuxième guerre punique, celle qu'on appelle la Grande Guerre. Celle-ci commence 3 ans plus tard avec le siège par Carthage de la ville de Sagunte, en Espagne, objet de la deuxième chanson Hispania, The Siege of Saguntum, titre efficace, propice au headbang, la batterie martiale n'y étant pas pour rien. L'un des épisodes les plus fameux de cette guerre est aussi un des meilleurs morceaux de l'album, Crossing of the Alps, qui raconte la traversée des Alpes par Hannibal à dos d'éléphant. Voilà, si un jour vous voulez attaquer Rome, dans le doute, prenez des éléphants, des fois ça marche. 5 minutes 30 de violence.
On a un soldo au PS.
C'est ce qu'on dit. 5 minutes 30 de violence qui prouve que l'on n'a pas besoin d'être un viking pour revendiquer le trône du death metal. Après tout, j'ai beaucoup de respect pour Amon Amarth, mais il faut avouer que Ex-Deo sont des prétendants au trône assez doués. S'ensuit Suavet Aurelia, un intermède de musique romaine pour mieux nous plonger dans l'ambiance. Notez d'ailleurs, comme vous avez pu l'entendre, que chaque morceau de l'album est annoncé par une dizaine de secondes de bruit de cavalerie et de barrissement d'éléphants, ce qui montre l'attachement d'Ex-Deo à faire un véritable concept album. Retour au métal ensuite avec Cato Major Carthago Delenda Est, d'après la célèbre formule de Caton l'Ancien, il faut détruire Carthage. Un beau morceau de bravoure hein, qui assume son côté mélodique, on en aurait presque des frissons. Mais des frissons vous en aurez aussi avec Ad Victoriam, que l'on écoutera tout à l'heure. Tout simplement le meilleur morceau de l'album, qui réussit à allier la rage du métal à des arrangements épiques, qui n'a pas envie de se lancer dans la bataille à l'écoute d'un tel morceau. The Spoils of War nous rapproche de la victoire romaine à travers le personnage de Scipion, connu sous le nom de Scipion l'Africain généralement, dans un titre qui n'a rien envié à Amon Amarth, ce qui nous donne envie de troquer le casque à cornes pour un casque d'hoplite. Enfin, épopée de 6 minutes, The Roman raconte la victoire totale de Rome, obtenue de haute lutte face à Hannibal, le pire ennemi qu'elle ait jamais connu. Chœur féminin, ensemble de cordes, guitare saturée et voix growlée, un magnifique morceau de death metal mélodique que, de César à Caligula, l'on n'aurait point renié. Alors, qui a dit que le métal ne pouvait pas enseigner l'histoire ? Alors, les exemples sont nombreux et on peut même parler du groupe suédois Sabaton qui s'est donné pour mission de raconter les grandes batailles en chansons et qui le fait d'ailleurs avec beaucoup de talent. Et aujourd'hui, Ex-Deo, grâce à un album impeccable musicalement, nous montre que le latin n'est pas une langue si morte que ça, bonne nouvelle. Et loin de moi l'idée de réformer l'éducation nationale, quoique. Mais si jamais, si jamais des profs de latin ou des profs d'histoire nous écoutent, eh ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire.
Le chanteur, c'est pas le mec qui fait la pub pour Activox. Non, voilà. Dis une bêtise. Je vais au fond de la classe.
Exactement. Et puis c'est 0 DS. Hein. Alors tout de suite, on va écouter Ad Victoriam de Battle of Zama.
Ne pas confondre avec la bataille de Zarma, c'est autre chose.
C'est autre chose, ouais. On va s'en tenir aux guerres puniques. Hein. Sinon, après, on va être déconcentré.
Toujours au fond de la classe.
Allez, go! We'll be right back. Ad Victoriam, extrait de la bande originale de La Reine des Neiges 2. Ex Deo, The Immortal Wars.
Et attention à la prononciation en latin.
En latin ?
Ad Victoriam. Ma prof de latin, on ferait une maladie. Attention.
Tout coquet, mi Damien. On va quitter la rubrique culturelle de l'émission et parler vulgairement de littérature. Moi, je voulais vous parler cette semaine, vous conseiller deux bouquins. Il y en a un qui est une nouveauté, mais l'autre, le premier, n'en est pas une. Alors, vous allez me dire, pourquoi tu veux nous parler de vieux bouquins ? Alors, d'abord, c'est un vieux bouquin qui date de 2008, donc pas si vieux que ça. C'est un livre du grand écrivain américain Philip Roth, et ça s'appelle « Le complot contre l'Amérique ». Alors, si l'élection de M. Donald Trump a provoqué chez vous et chez beaucoup de gens un malaise ou une crainte diffuse, si vous avez la sensation ou le sentiment que la propagande a pris le dessus sur la recherche de la vérité, on parle de plus en plus de vérité alternative. Si vous trouvez que la violence verbale s'est banalisée dans les débats politiques, que le narcissisme est la maladie du moment, et que du coup on voit ressurgir toutes les formes de racisme, d'antisémitisme, et que plus que ça, on les voit ressurgir, mais on voit également ces propos se banaliser dans le discours de tous les jours. Donc si, comme moi, si, comme beaucoup, vous ressentez cela, c'est le moment de lire ou de relire « Le complot contre l'Amérique » de Philip Roth. Je voudrais qu'on élargisse un petit peu le propos. Il n'y a pas que Trump et les Américains, il ne faut pas croire, il y a nous aussi, hein, de ce côté-ci en France. Si vous regardez l'actualité politique depuis une cinquantaine de jours, le Penelope Gate, l'affaire Fillon, etc., mais également la montée dans tous les sondages de l'extrême droite et pourquoi pas dans d'autres pays. Je pense à la Hollande qui votait aujourd'hui, je crois. Voilà, vous vous rendez compte qu'il est temps de lire « Le complot contre l'Amérique » de Philip Roth. Ce qui se passe depuis quelques jours en France, la critique de la justice qui serait aux ordres, la critique de la presse, lorsqu'il m'arrive quelque chose, moi, homme politique, lorsque je me fais prendre la main dans le pot de confiture, c'est la faute aux journalistes, sont des discours qui ont été tenus par Trump il y a quelque temps, et on les retrouve ici aussi. Donc j'avais envie de dire, Trump et classe politique française aujourd'hui, même combat, il est donc temps de relire le complot contre l'Amérique, de Philip Roth. Ah, tu vas me dire, depuis le temps, de quoi ça parle ? Le complot contre l'Amérique, c'est une uchronie. On en parle souvent, Damien, dans Champ Libre. C'est une uchronie qui se déroule dans les années 40 aux États-Unis. Cette histoire nous est racontée par un jeune gamin issu d'une famille juive, Philip Roth, et il nous raconte qu'en 1941, le président Franklin Roosevelt n'a pas été réélu, et que à sa place, c'est l'aviateur sympathisant nazi et membre du comité America First, Charles Lindbergh, qui est élu. America First, c'était le slogan des nazis à l'époque, c'était le slogan de Trump cette année. Amusant. Enfin, amusant. Oui. Donc Charles Lindbergh est devenu président des États-Unis au terme d'une campagne teinté d'antisémitisme et axé principalement sur le refus de voir l'Amérique prendre part au conflit qui ravage l'Europe. Lindbergh conclut un accord avec Hitler et explique au peuple américain qu'il ne faut surtout pas se mêler de ce qui se passe en Europe, que tout ça c'est la faute aux fauteurs de guerre que sont les Juifs et les Anglais. Voilà. Donc ce roman mêle à la fois des faits historiques et de la fiction, et raconté du point de vue d'un enfant, il nous montre comment, de façon insidieuse, on va libérer petit à petit, dans le discours dans un premier temps, et puis dans les faits ensuite, on va libérer la parole haineuse à l'égard du juif dans le roman, mais à l'égard de l'étranger de manière un petit peu plus générale. Moi, après avoir lu ce bouquin, après avoir vu l'avoir lu en 2008, après avoir lu dans la presse, regardé la télé, écouté à la radio comme vous tous, ce qui s'est passé aux États-Unis et ce qui s'est passé en France depuis quelque temps, je me suis dit, mais Philippe Roth a écrit tout ça. Remplacer juif par musulman, remplacer Lindbergh par, j'ose plus citer des noms maintenant, parce qu'avant ils étaient une, maintenant ils sont plusieurs. D'accord ? Donc voilà. Lisez Le complot contre l'Amérique. Et j'aurais aimé que les Américains lisent Philippe Roth avant de voter. Ça, c'est le premier bouquin. Le deuxième bouquin dont je voudrais vous parler, que je voudrais vous conseiller cette semaine, ce mois-ci, c'est un livre d'une journaliste qui s'appelle Anne Niva. Anne Niva était reporter de guerre, ce qui veut dire qu'elle a bourlingué un petit peu partout dans le monde. Elle a vu des choses quand même pas tristes. Elle était reporter de guerre indépendante, elle a travaillé pour Libération, elle a travaillé pour le... Je veux pas dire de bêtises, elle a travaillé pour le journal de Canal. Et elle a décidé, depuis un an et demi, de poser son sac de reporter de guerre et de se balader en France pour aller à la rencontre de la France, des Français dont tout le monde parle à la radio, à la télé, dans les discours des hommes politiques, et que personne ne rencontre jamais. Donc elle fonctionne exactement de la même manière que lorsqu'elle était reporter de guerre. Elle se déplace dans des villes de France, Évreux, Lens, Laval, Montluçon, L'Aulne-Saunier, Ajaccio, et elle rencontre des personnes. Alors ça va du policier électeur du Front National dans une banlieue parisienne, à l'éducateur socio-culturel qui, ex-électeur de gauche, un peu désespéré parce qu'il voit et ce qu'on lui propose. Je vous conseille de lire ce livre parce que ça permet de comprendre qui sont ces Français qu'on oublie et que depuis nos salons, quelle que soit la taille du salon et quel que soit le petit doigt qu'on lève, ces Français que l'on accuse parfois de mal voter. On va nous en parler de plus en plus dans les jours qui viennent. Votez surtout pas de ce côté-ci, mais surtout ne vous abstenez pas. Votez pour moi, je suis le seul rempart contre le côté-ci, si vous voyez de quoi je cause. Voilà, donc lisez tout ça d'abord. Ça permet de mieux comprendre pourquoi on ne réagit pas tous de la même façon face à l'actualité politique. C'est un récit, le récit de Anne Niva, qui est intéressant parce qu'elle a tendu son micro et son appareil photo, et elle arrive sans préjugés. Voilà. Ça évite, par exemple, des phrases telles que « tu ferais mieux de te payer un costard plutôt que d'avoir un t-shirt ». Ça évite à des politiques, par exemple, de ne pas prendre le métro. Lorsqu'on leur reproche de ne pas prendre le métro, voilà, ce serait bien de voir les choses d'une autre façon. Est-ce qu'il y en a beaucoup parmi vous qui récemment ont pris le métro pour aller voir ces gens-là ? Non. Lisez « Dans quelle France on vit ?» C'est le titre du bouquin Anne Niva chez Fayard. Le Philippe Roth, le complot contre l'Amérique, était sorti chez Gallimard. Je crois qu'il existe aujourd'hui en folio. Voilà, on va se séparer, parce que Champ Libre, c'est fini pour ce mois-ci. On va se séparer avec un titre du dernier album du Brian Johnstone Massacre. L'album s'appelle toujours Don't Get Lost. Il a été enregistré quelque part du côté de Berlin. Le titre qu'on va écouter ce soir, en tout cas un petit bout du titre, c'est « Acid to me is no worse ». Zanwar, ce qui se traduit, lorsqu'on parle anglais couramment, Damien, par L'acide, pour moi, n'est pas pire que...
la guerre.
Voilà, c'était Champ Libre. Merci, Joe.
Merci.
Pour ta rubrique.
Merci,
merci
à bientôt.
Damien, pour
merci.
Le niveau culturel que tu apportes à cette émission. Et merci, Laurent, pour ton travail technique. Bye.
Bonne soirée.